pense qu'il y a pas mal de passerelles avec notamment l'intervention de Sunga Kim qui avait à voir aussi avec la question du son. Il y a tout un archipel de propositions via le téléphone, le podcast, la déambulation avec casque, etc., qui renvoie à ce théâtre pour l'oreille. Et il faudra aussi se demander comment la crise qu'on a traversée, qu'on est encore en train de traverser, a pu aussi, là encore, favoriser ces formes-là, enfin, d'expériences. J'ai essayé beaucoup, moi, d'attirer mes étudiants vers des expériences zoomesques et numériques. Et en fait, il y avait une vraie résistance. Là où tout ce qui était théâtre pour l'oreille, téléphone, podcast, permettait justement ce présent multiple qui fait qu'on n'est pas complètement captif de l'écran, de la fatigue qui suscite. Enfin, il y avait une vraie curiosité pour ces formes-là par opposition au format numérique, aux captations mises à la disposition par les théâtres, etc. Bon, mais le temps file, donc nous passons à l'intervention de Jérôme Ramacœur. Donc, vous êtes actuellement consultant au sein d'une agence de communication spécialisée dans le non-marchand, notamment de la compagnie de cirque de rue Les Petits Bras. Et vous vouliez nous parler à la fois des expériences alternatives en termes de spectacles vivants qui ont essaimé en Belgique du fait de la crise sanitaire, pour ouvrir sur une réflexion et des interrogations en termes de communication culturelle. Vous avez la parole.
Donc effectivement, moi, je vais essayer de faire basculer un peu la journée aussi dans cette réflexion sur les nouvelles pratiques du spectacle vivant vers les nouvelles pratiques de communication. Tous ces exemples que, effectivement, j'ai collectés pendant près de 2 ans. Ici, je n'ai sélectionné que les exemples de spectacles vivants et pour être un peu exotique, je n'ai pris que ceux de Belgique. Et de voir un peu ce qu'ils communiquent et comment ils ont communiqué, parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de des confinements et des confinements que la manière dont les structures ou les artistes communiquaient évoluait aussi avec les formes alternatives. J'ai mis, je pense, dans le chat les liens vers ce texte-là, qui est un texte qui est à l'origine de ma présentation aujourd'hui. C'est un texte que j'ai publié début mai, donc on était à peine à 1 mois du premier confinement, et c'est un texte que j'ai alimenté progressivement au fur et à mesure de l'année 2020. Donc au fur et à mesure, j'alimentais, je continuais mes observations, mes analyses et mes conseils par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Tout simplement parce que dès le premier confinement, j'ai eu énormément d'artistes et de structures qui m'ont appelé pour demander qu'est-ce qu'on fait, on n'arrive pas à gérer, comment est-ce qu'on communique aujourd'hui et qu'est-ce qu'on. Voilà. Ça peut être des festivals aussi de musique qui étaient totalement freinés dans leur élan événementiel, aux artistes émergents qui allaient lancer leur première musique. Et donc, effectivement, moi, j'interviens à la fois dans une agence de communication, mais aussi comme formateur et conseiller dans le secteur culturel et artistique. Et je m'occupe d'une compagnie de cirque, je vous en parlerai un peu plus tard, de rue qui tourne partout en Europe. Et donc, voilà, c'est intéressant parce que j'ai à la fois la place d'observateur, de prendre un peu ce recul stratégique, et en même temps, je suis avec eux dans le bain et avec tous les créateurs et essayer de trouver des solutions. Parce que c'était ça ma démarche après 2020, quand j'ai arrêté d'écrire cet article. C'était de dire, OK, mais 2021, trouvons des solutions. Et voilà, comment est-ce qu'on peut interpréter et aller plus loin dans nos pratiques. Évidemment, dès le départ, on s'est rendu compte qu'un des premiers enjeux, c'était de rester connecté. Alors, on l'a dit, soit c'était par envie, soit c'était par injonction presque, avec l'avènement du streaming qui était d'abord une super opportunité et qui à la fin est devenu un peu too much. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont été baignés de contenu culturel, beaucoup plus que d'habitude. Et ça, c'est une grande force, je trouve, de ce véhicule-là, c'est qu'on a eu énormément d'enrichissement culturel, que ce soit des concerts live, bon, Marca et Angèle ont été un des premiers à se lancer, des bords de scène via Instagram, ça c'était pour la vidéo, mais aussi en termes de contenu, ce que les artistes ou les acteurs culturels publiaient sur les réseaux sociaux, avaient pour vocation non plus de vendre leur spectacle, de faire la promotion ou de dire aux gens de venir à leur événement, mais ils partageaient ce qu'ils sont au-delà de ce qu'ils font. Et donc, c'était très intéressant de voir cette richesse pour effectivement rester connecté avec leur public. Et voilà, parfois avec humour, nous, effectivement, avec la compagnie des Petits Bras, on a partagé des photos où les artistes étaient en train de s'entraîner chez eux en attendant l'ouverture des festivals. C'est vrai que ça gardait le lien, ça faisait écho avec l'actualité que chacun vivait chez soi, tout en continuant à parler de nous. On a vu aussi pas mal de retours à d'anciennes pratiques. Moi, ça m'a vachement étonné. Comme on l'a dit, notamment le téléphone, c'est devenu une forme théâtrale où on pouvait... dire à un comédien, ok, voilà, je m'inscris, et le comédien nous appelait par téléphone et nous donnait, récitait une poésie, un extrait de pièce de théâtre. Et donc, on a retrouvé l'usage de ce téléphone, parfois même à fil, à domicile, mais aussi des comédiens qui intervenaient avec des gueulophones dans la rue pour réciter des poèmes d'amour. Des drive-in, on en a parlé, mais ici, l'exemple que je vous mets, c'est un drive-in où les spectateurs venaient avec leur voiture dans la cour du théâtre et la pièce se jouait autour de la voiture. Ou alors, par exemple, pour la fête de la musique, ce qui était assez frappant, c'est que la fête de la musique aujourd'hui, en tout cas en Belgique, s'est muée comme un grand événement où des artistes de renom sont programmés sur des scènes parfois payantes, alors qu'à l'origine, c'était simplement sortez de chez vous et jouez de la musique. Et donc, on a retrouvé ces anciennes pratiques de faire de la musique sur son trottoir ou à son balcon. On a vu aussi apparaître pas mal de collaborations inédites, et ça faisait partie de ce que je mettais au-dessus des prédictions que j'avais émises, en me disant, mais comme on est coincé et qu'on vise vraiment cette solidarité entre tout le monde, faisons des choses inédites entre nous pour se soutenir. Et donc oui, il y a eu un organisateur de soirées dansantes qui a privatisé des chambres et les gens pouvaient aller danser dans des chambres. Et donc c'était des discothèques réduites. Il y a eu des collaborations entre les festivals, ce qui ne se faisait pas avant, où un festival programmait d'autres festivals. Donc c'était intéressant de voir comment est-ce qu'ils pouvaient justement fonctionner ensemble. On a eu les Bonimenteurs, qui est une compagnie de théâtre de rue, qui s'est improvisé, entre guillemets, guide touristique d'un musée via Zoom. Et donc, on prenait rendez-vous et effectivement, ils utilisaient Zoom pour, avec le système de fond d'écran derrière, nous faire visiter de manière humoristique le musée. Et donc, je pense que cette collaboration-là n'aurait jamais eu lieu si on n'avait pas eu cette imposition-là d'être confiné et de proposer une forme alternative de boniment de rue, mais dans la rue virtuelle, quoi. Je pense que ce qu'on a remarqué aussi, c'était toute cette culture de proximité. Il y avait, notamment dû à la fermeture des frontières, on s'est relocalisé. Il y a une relocalisation et géolocalisation des publics. On n'allait plus pouvoir chercher l'international ni les artistes internationaux, donc on était dans le local. Il y a eu pas mal d'initiatives intéressantes, notamment en bas à gauche, c'est Pizza Art. C'est un groupement de centres culturels d'une région qui ont proposé des sortes de boîtes de pizza à emporter, enfin à livrer, donc on les commandait, et à l'intérieur il y avait plein de propositions musicales et ils venaient les livrer avec une chanson, un poème, un petit spectacle au pas de la roue, au pas de la porte. Les petits trucks, food trucks pour des siestes sonores ou des caravanes, vraiment pour des petites jauges. Et c'est vrai que alors qu'on était dans un phénomène de développement où tout devenait plus grand, plus grand, plus grand, on est revenu à des phénomènes plus petits qui existaient en parallèle, qui étaient la marge, mais la marge est devenue le modèle. Et donc d'avoir des petites jauges avec des cultures de proximité. On a remarqué aussi ce changement de lieu de diffusion au-delà du virtuel. Des collaborations ont permis effectivement de mettre en place des lieux atypiques de diffusion, que ce soit des spectacles dans les vitrines de cafés fermés ou de magasins fermés. Et donc effectivement, les gens passaient dans la rue et pouvaient assister à distance et de manière safe à des spectacles de cirque ou de concerts. Ou alors, comme les musées étaient encore ouverts, on a programmé des artistes dans les musées. Et par exemple, en bas, c'est une artiste qui s'appelle Blanche qui a fait tout un show dans le musée Magritte. Je suis persuadé que cette collaboration n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu la pandémie, parce qu'ils ont osé faire quelque chose qui était à la base intouchable. Dans les formes innovantes, au niveau son, il y a eu le projet Contact qui a été à Paris, mais qui est venu aussi à Bruxelles, d'un spectacle où le spectateur téléchargeait une application et se connectait à un flux sonore, à une bande sonore, et la pièce se déroulait devant ses yeux dans la rue avec des acteurs qui ne parlaient pas, mais qui réagissaient en fonction du son que tout le monde entendait. Il y a Michel Dufour qui a créé une sorte de théâtre maton, donc une sorte de petite cabine. Ce qu'il explique, c'est que d'habitude, on a inventé du théâtre où nous, on était dehors, on avait froid et les gens étaient à l'intérieur. Et on a inversé la donne et nous, on était protégés dans la cabine et les gens venaient par deux assister à une petite forme de spectacle. Il y a alors une autre version aussi d'une forme alternative, finalement, par Zoom. C'est le théâtre Zygomar qui a créé un spectacle pour les écoles, pour les tout-petits, où il y a vraiment un comédien qui interagit avec des dessins sur Zoom, mais qui est créé pour Zoom, quoi. Donc, ça n'a pas été une transposition, on va dire, d'un spectacle existant sur Zoom, mais ça a été créé en connaissance de cause avec la technologie de Zoom. Un dernier exemple d'innovation, je trouve, ou en tout cas de pied de nez à toutes ces alternatives qu'on a vues apparaître. Oui, il y a eu beaucoup de streaming. Le gouvernement en Belgique a même payé pour faire des captations et les mettre à disposition du public. Et donc, il y a des théâtres qui ont créé leur propre VOD, donc leur propre service de vidéo à la demande. Et ici, le TTO, qui est un théâtre plutôt humoristique, il a fait le TTO Flux avec un logo qui ressemble à Netflix pour mettre à disposition ses propres pièces de théâtre. Mais il a été plus loin aussi dans ce contre-pied numérique parce que il s'est inscrit aussi sur Twitch et ils ont commencé à faire des rencontres sur Twitch avec les comédiennes du théâtre. Voilà, pour un peu faire un pied de nez en disant ben, on y va dessus, on verra bien. Donc c'est ce côté un peu expérimentation aussi qui était intéressant, je trouve, pendant la pandémie. Et quand les arts vivants étaient fermés, mais que les musées pouvaient ouvrir, on a eu pas mal d'exemples, et ici le TTO l'a fait aussi, de lieux culturels vivants qui se sont transformés en musées des arts vivants. Et donc ici, le théâtre était fermé, mais a dit venez faire l'expérience muséum, et donc on allait visiter le musée avec un comédien, mais on visitait le théâtre. Donc c'était une forme intéressante de pied de nez aux contraintes sanitaires imposées, tout en faisant quand même une programmation théâtrale, mais qui était sous forme de guide muséal, quoi. Toutes ces formes alternatives ont eu comme répercussion qu'on ne savait plus forcément planifier la communication d'un projet. Moi, les communicateurs qui m'appelaient, ils étaient paniqués parce que tout leur plan de com tombait à l'eau. Et en même temps, on s'est rendu compte que ceux qui avaient déjà mis en place ce qu'on appelle des lignes éditoriales, donc une vision très claire de comment est-ce qu'ils utilisent leurs outils de communication, ils ont pu rebondir et prolonger l'expérience de leur spectacle sur les lieux, enfin sur les réseaux sociaux ou même à travers des affiches. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte que le marketing culturel, en gros, toute la démarche de communication d'un lieu culturel ou d'un spectacle, a permis aussi de sauver, entre guillemets, la vie artistique et la vie culturelle pendant le confinement, parce que il en était une prolongation. Au fur et à mesure que les mois se découlaient en 2020, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des récurrences au niveau de l'évolution de la communication des structures et des artistes. C'est-à-dire que, tiens, tout le monde est en train de communiquer comme ça. Tout le monde est en train de basculer vers telle forme de communication. Tout le monde est en train de réagir ou d'avoir une certaine forme de communication qui n'existait pas avant, en tout cas qui est prédominante aujourd'hui, qui n'y était pas. Et donc, j'ai essayé de vérifier si finalement, il y avait une sorte de cycle qui se mettait en place. Et effectivement, j'ai appelé ça les trajectoires stratégiques. C'est disponible sur SlideShare. Si vous tapez trajectoire stratégique, vous allez trouver toute la démonstration. Mais en gros, c'était de se rendre compte que avant la crise, on avait souvent une stratégie de communication de présentiel. On appelait à l'action, on appelait au déplacement. Donc, on avait une communication mobilisatrice, hyper événementielle. C'était le where et le when. C'était ça qu'on mettait dans nos infos. Et toute la com, tout le contenu médiatique était dirigé vers venez voir notre spectacle, déplacez-vous, et d'avoir vraiment cette idée d'action et de faire sur place. Quand on a été confiné, on a eu, dans un premier temps, un moment de résilience. Alors, j'expliquerai plus tard qu'effectivement, en fonction des confinements, ça a un peu évolué. On n'a pas eu les mêmes réactions au premier, deuxième et puis troisième confinement. Mais il y a eu ce phénomène d'abord de résilience où on avait une communication beaucoup plus altruiste, immatérielle et reliante. Donc, comme je disais, le côté de rester connecté et en même temps d'alimenter les contenus avec une prolongation de notre œuvre artistique. Et donc, d'essayer de donner du sens finalement à ce qu'on communique en lien avec notre projet. Puis on est passé à la transition, donc c'est au moment où on a commencé à déconfiner, mais pas trop, on a eu quand même quelques largesses, on était vraiment en transition, et c'était toutes ces actions de notoriété physique, c'est-à-dire on veut vous rassurer, regardez, on est là, regardez, on est ouvert, regardez, il y a toutes les informations qu'il vous faut pour venir en toute sécurité chez nous, et donc la communication des spectacles et des événements culturels ont été vraiment tournés dans le sens d'utile et de rassurant. Même le web est devenu utile et rassurant avec le fameux QR code qui devenait sanitaire et salutaire. Alors qu'avant, dans certains pays, ça se développait très peu. Et ici, voilà, on est passé, on va dire, d'une communication tactile à une communication sans contact. Et toute cette stratégie, on la retrouve encore aujourd'hui, malheureusement, elle vise à redonner confiance aux gens et de donner les bonnes informations. Arrête de me vendre ton spectacle, rassure-moi et donne-moi des informations utiles. Pour arriver après à un basculement par certains vers effectivement ce côté innovant, mais de savoir ce qu'on en garde de cette transition. Alors effectivement, il y a eu des choses qui se sont développées comme des billetteries en ligne qui proposent aussi un lien direct avec des captations, avec des projets qui sont exclusivement en ligne parce que du coup accessibles à des personnes qui n'y ont pas accès, je pense à les personnes dans les hôpitaux. Le QR code, j'en ai parlé, mais il y a aussi le fait d'être toujours dans cette incertitude et de justifier pourquoi est-ce que je devrais me déplacer pour voir un spectacle ou une exposition alors que pendant X mois, j'y ai eu accès en ligne. Et donc on a vraiment toute cette tendance-là où on a vu que les opérateurs rivalisaient d'arguments pour refaire se déplacer les gens, et on n'y est pas encore, mais d'avoir vraiment ce côté innovant aussi dans les arguments et dans la manière de communiquer. Alors évidemment, une fois qu'on conceptualise ce genre de cycle, il est intéressant juste de le vérifier, de dire, tiens, est-ce que ça se vérifie? Et donc, oui, je vous donne juste trois exemples, je vois que l'heure est quasi finie. Je me suis rendu compte, même nous, avec la compagnie des petits bras, on a évolué dans ce genre de communication, pas forcément de manière consciente, mais on était dedans. Pendant le confinement, on a partagé l'affiche sans couleur en disant aux gens, ben voilà, imprimez-le et demandez à vos enfants de colorier l'affiche pour lui redonner des couleurs parce qu'on a besoin de quelque chose de positif dans cette pandémie. Avec vraiment tout ce côté, regardez, on est en train de s'entraîner, on a hâte de vous retrouver. Je l'ai retrouvé dans un autre lieu culturel, par exemple, qui a eu ces moments de transition où ils ont fait une expo dans la rue avec les affichages publics en disant, regardez, on ne peut pas encore ouvrir, mais on est là et on est présent et on vous montre qu'on pense à vous. Je l'ai même eu avec la Nigra, où on peut vérifier aussi qu'il y a eu une évolution dans la manière de communiquer, dans les contenus de communication qui tournaient dans ces cycles-là. Enfin, voilà, vous pourrez vous amuser avec vos propres pratiques de vérifier, mais c'est intéressant. Moi, ça m'a permis de prendre ce recul parce que quand on a eu le deuxième confinement, j'ai prévenu les gens en disant, mais ayez du matériel, que si jamais vous fermez, vous pouvez encore communiquer, parce que fermer, ça ne veut pas dire interdit de communiquer. On a vraiment cette idée-là. Et puis, si vous évoluez dans vos pratiques artistiques, vous devez éduquer votre public dans cette pratique artistique, sinon on risque la fracture numérique, on risque la perte de confiance. Et donc, on avait vraiment ce jeu-là, je trouve. Enfin, voilà, moi, en étant à la fois des deux côtés, c'est vraiment l'idée de l'évolution des pratiques où la communication, elle fait culture ensemble. Enfin, pour conclure, ici récemment en Belgique, il y a eu une décision du gouvernement de fermer les lieux culturels, les spectacles. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme le gouvernement voulait. Donc, on est passé de la résilience à la résistance, c'est-à-dire que les théâtres ont refusé de fermer et ont quand même joué les pièces contre l'avis du gouvernement. Et ça a eu un effet assez phénoménal, puisque le gouvernement est revenu sur ses décisions. Et donc, nos théâtres peuvent ouvrir contre l'avis du gouvernement, parce qu'à un moment donné, ils ont dit, ça suffit, on a mis tout ce qu'il faut en place, on a du mal à ravoir les gens, donc laissez-nous gérer nos publics. Et donc, on a dû avoir cette résilience. Et alors, cette résistance, elle est faite avec humour. Et j'aimerais là-dessus, parce qu'effectivement, c'est le côté autodérision aussi qu'on a en Belgique, c'est OK, on va ouvrir un club de fitness parce qu'en fait, quand ils ont annoncé les mesures, les clubs de fitness pouvaient ouvrir, les restos pouvaient ouvrir. Bah, très bien, on n'est plus un spectacle, on n'est plus un théâtre, on est un restaurant et venez déguster nos pièces. Enfin, donc voilà, il y a eu cette résistance qui s'est faite depuis le début en Belgique avec des opérations comme Still Standing. Mais ça montrait aussi comme quoi on avait besoin de la culture pour communiquer. Et je pense que c'est une très belle phrase de conclusion.
Tout à fait, merci beaucoup. Maîtrise absolue du temps. Merci beaucoup pour cette entreprise de cartographie, à la fois sur le plan des formes suscitées par la crise et puis sur les formes sous l'angle de la communication que ça a appelé. Et puis, ça nous ouvre aussi à une vraie question épistémologique, c'est-à-dire maintenant, il y a la question de la périodisation, parce qu'on croyait que c'était juste 2 mois, en fait, ça ne l'est pas. Et on sent que dans le long temps de la crise, il y a vraiment des moments tout à fait spécifiques, et que le premier confinement ne pose pas du tout la même question que le deuxième, en termes de forme et en termes de communication. Et que là, on est dans une période qui est dans l'après et en même temps dans le pendant toujours, qui pose des questions sur la façon dont on va faire revenir les gens au théâtre et en même temps qui ne cesse d'être émaillé par de nouvelles vagues qui diluent la crise. Donc il y a vraiment une frise, il y a non seulement une cartographie à faire, mais il y a aussi une frise pour distinguer toute une série de périodes et la façon dont elles modulent chacune à leur façon les problèmes auxquels on est confronté. Bon, je laisse tout de suite la parole. Oui.
Les exemples que je vous ai donnés, il y en a plein, et je fais effectivement une veille sur une page Facebook, c'est un des deux liens que je vous ai mis, parce que ça a été riche, et donc c'est intéressant. Mais après,
Oui.
l'idée, c'est de s'en saisir, et je trouve ça chouette, comme dans cette journée d'études, de
Bien
se
sûr.
partager ces exemples pour s'en inspirer mutuellement.
Merci beaucoup.